Tous ici, nous voudrions sans doute un monde de paix. Il se trouve que le monde est dans l'état où il est.
Je ne joue pas sur les mots, je dis quelque chose de très précis.
Les choses ne vont pas se faire comme ça.
On vous licencie pour quelques années, puis vous reviendrez plus tard.
Chaque Français vit à moins de 300 km d'une centrale nucléaire.
Nos salaires ont baissé d'environ 25%.
Score maximum. Ça, c'est bon.
Chaque jeudi, à midi, retrouvez la rédaction de l'hebdomadaire Politis pour une chronique indépendante et engagée sur l'actualité politique et sociale.
Politis qui titre cette semaine « Défendre le service public » avec un dossier spécial auquel a contribué notamment Michel Soudet. Bonjour Michel Soudet.
Bonjour.
Alors défendre le service public, une nécessité puisque le gouvernement est clairement à l'offensive. Hein. L'objectif, on est sur une réduction de la dépense publique de un peu plus de 3,5 points entre 2017 et 2022.
Oui, les économies recherchées sont extrêmement importantes. Hein. On est dans l'ordre de 60 milliards d'économies.
Et, là, vous parlez par an ou sur les 5 ans 2017-2022
Sur une année pleine, au final. Et là, ça correspondrait à 120 000 fonctionnaires en moins.
Sur 5 millions initialement, 20% de l'emploi salarié.
Oui, c'est ça.
Donc 120 000 postes.
Avec tout un tas d'aménagements prévus pour limiter les recrutements sur concours au statut, pour accroître la recherche de contractuels, des rémunérations individualisées au mérite, enfin.
Oui, c'est un big bang qui se profile là dans la fonction publique sur le statut de ceux qui restent en tout cas, pas pour les 120 000 postes qui seront supprimés. Vous avez évoqué d'abord donc cette question du statut des contractuels. À l'heure aujourd'hui, justement, c'est à peu près 17% des effectifs de la fonction publique.
Oui, ça fait partie des choses assez méconnues, puisque c'est un pourcentage déjà extrêmement important.
Par rapport au privé, là, vous savez un petit peu comment on se situe ?
Pardon ?
17% par rapport au privé, on va dire au contrat court dans le privé ?
Oui, alors, il y a eu des évaluations qui ont été faites, qu'on a vues circuler, tendent à penser que les contrats courts, les contrats précaires dans le secteur privé représentent en gros 13 à 14%. Donc on est là sur une précarité qui serait supérieure. Précarité certes un peu relative, mais les contractuels ne sont jamais complètement certains d'être reconduits d'une année sur l'autre ou des fois sur des contrats même qui peuvent être plus courts.
Et alors là, ça a des incidences non seulement pour les personnels même en tant que salariés, que travailleurs, mais aussi sur leur travail, puisque vous réalisez dans ce numéro de l'hebdomadaire Politis une interview de Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, et qui pointe des incidences, par exemple, sur la recherche fondamentale.
Oui, elle prend cet exemple. Il y a au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 40% de contractuels. Or, comme elle le pointe très bien, comment voulez-vous vous engager dans une recherche forcément longue si vous avez un contrat limité dans le temps ? Ça induit quoi ? Ça induit que les chercheurs sont moins sur de la recherche fondamentale que sur de la recherche immédiatement fonctionnelle. Donc, des fois, sur de la recherche de commandes. Hein. Et c'est tout le problème, d'ailleurs, des contractuels qu'on connaît bien dans la fonction publique territoriale où la proximité avec les élus fait que et qui sont les donneurs d'ordre, fait que les contractuels sont beaucoup plus dépendants de ces élus que ne le sont les fonctionnaires sous statut, qui eux peuvent, du fait de leur garantie de l'emploi, même si ça peut les conduire à des mutations, avoir beaucoup plus de liberté pour dire non quand un ordre ou une demande n'est pas conforme à l'éthique, à la finalité du service public.
Donc derrière cette question des contractuels, c'est celle de la cohérence et de la vision de long terme du service public.
Oui, tout à fait, puisque le service public a quand même des obligations d'impartialité, de neutralité, ce service du public qui passe avant toute chose. Or, les contractuels ou ceux qui seraient soumis à des rémunérations individualisées au mérite, mais mérite décidé par qui, si ce n'est par les donneurs d'ordre qui peuvent être des élus ou des supérieurs, ne donneraient pas forcément le même résultat. Et ce sont les usagers, un terme qu'on n'emploie plus beaucoup, malheureusement, puisque
on parle de clients,
de management et du privé ont quand même gagné beaucoup dans la fonction publique. On voit ce que ça donne à l'hôpital, par exemple.
Donc ça, c'est un point, hein, cette question du statut entre fonctionnaires contractuels. Et puis là, vous venez d'évoquer la question de la rémunération, qui est au cœur aussi des revendications syndicales. Que veut faire le gouvernement sur cette question des rémunérations des fonctionnaires ?
Alors, le gouvernement, pour l'instant, il a surtout montré combien il comptait faire des économies sur les fonctionnaires. Il faut se rappeler que suite à la crise économique, Nicolas Sarkozy avait décidé de geler le point d'indice des fonctionnaires. C'est le point qui sert de base à leur rémunération, puisqu'après, suivant leur grade, il y a des coefficients multiplicateurs. Donc ce point a été gelé en 2010 jusqu'en 2016. Et ce n'est que pour la fin de l'année 2016 et l'année 2017 que le gouvernement de François Hollande avait décidé un petit coup de pouce à ce point d'indice qui avait permis de remonter un tout petit peu les rémunérations de base. Et sitôt arrivé au gouvernement, Gérald Darmanin a fait savoir, à la suite d'un rapport de la Cour des comptes au mois de juillet, que le point d'indice serait de nouveau gelé pour l'année 2018. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le précédent gouvernement avait avait discuté avec les syndicats d'un protocole sur les parcours professionnels qui permettait d'envisager des évolutions de carrière. Or, ce protocole, à peine signé par le précédent gouvernement, a été reporté au minimum d'un an, donc n'est pas entré en vigueur en 2018. Et là aussi, ça fait partie des revendications. D'autant que les syndicats avaient envie de continuer à discuter autour de ce protocole qui était un compromis.
Donc là, il a été purement et simplement supprimé. Mais est-ce
voilà,
que...
l'autre point, c'est quand même extrêmement symbolique et significatif. C'est que Emmanuel Macron avait promis de rémunérer mieux tous les travailleurs avec sa fameuse bascule des cotisations salariales sur la CSG. Donc, dans l'opération, les salariés du privé, ils gagnent un peu. Je dis un peu parce que l'opération se fait en deux temps. Et pour l'instant, chacun a pu constater sur ses feuilles de paye, par des différents jeux mécaniques, que le gain était relativement faible. Mais pour les fonctionnaires, il a été décidé au mois d'octobre que eux auraient tout juste une compensation, c'est-à-dire que on leur augmente leur paye du montant qu'on leur prélève sur la CSG. Ils ne gagnent rien et en plus, que par suite d'une erreur informatique, paraît-il, ils se sont retrouvés à gagner moins au mois de janvier et la correction n'est toujours pas faite. Hein. Il faut un certain temps pour la faire.
Donc le résultat de tout ça, c'est une baisse du pouvoir d'achat et de la rémunération des fonctionnaires. Mais finalement, est-ce qu'ils étaient si mal servis en amont ? Est-ce que ça ne se justifie pas par rapport à la situation globale ?
Alors, toutes les données le montrent. quand je dis les données, c'est le rapport annuel de l'État ou des études qui ont été faites par l'OCDE. L'OCDE, par exemple, compare les salaires des enseignants dans différents pays. Et en France, les enseignants, par exemple, à 15 ans d'ancienneté, sont nettement moins bien payés que dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne, même moins bien payés qu'un enseignant au Portugal, pour prendre cet exemple. Donc, par rapport au privé, c'est la même chose. On constate que à qualification égale, le fonctionnaire est moins bien payé que le salarié du privé. Et ça, c'est indéniable. Donc, il y a bien un malaise et une tension très forte, d'autant que avec les réductions d'effectifs qui ont déjà eu lieu ces dernières années, il faut se rappeler de ce que Nicolas Sarkozy, avec la révision générale des politiques publiques, la RGPP, avait initié, et son souhait de ne pas remplacer un départ, enfin de ne remplacer deux départs à la retraite que par un seul recrutement. Les employés des fonctions publiques ont véritablement le sentiment de travailler beaucoup plus sans avoir les augmentations qui suivent. Et il y a des secteurs en tension extrême.
L'hôpital dont on parle beaucoup.
Où là, presque tous les jours, on entend parler ici et là de grèves, de services d'urgence surchargés.
De personnes renvoyées à domicile de manière un peu précipitée.
Parce que les fonctionnaires payent là les conséquences de décisions politiques quand vous décidez que dorénavant on va se tourner beaucoup plus vers la médecine ambulatoire, vous supprimez des lits et quand les gens arrivent aux urgences, il n'y a plus de lits pour les accueillir, ils restent sur des brancards.
Alors, nous sommes toujours avec Michel Soudet, journaliste pour l'hebdomadaire Politis, et nous discutons à propos du thème du dossier central de Politis cette semaine qui fait à une défendre le service public. On parlait là de la fragilisation du statut des fonctionnaires en tant que travailleurs et salariés. Souvent, ce qu'on entend, c'est que finalement, ils peuvent peut-être faire des concessions parce qu'ils ont la sécurité de l'emploi.
Oui, ça c'est un vieil argument maintenant. On n'est pas dans le nouveau monde là, on est dans l'ancien. Toutes les thématiques sur les fonctionnaires privilégiés qui peuvent faire des efforts, qu'on la garantie de l'emploi, un statut archaïque ou autre, toutes ces choses, on les avait en concentré dans une émission animée par Yves Montand en 1984 qui s'appelait Vive la crise, qui avait donné lieu à un supplément de Libération où Laurent Geoffrin principalement reprenait tous ses arguments. Donc ça n'a rien de nouveau, sauf que ça a beaucoup gagné dans l'opinion, et là avec ce mouvement social qui s'amorce, notamment avec la question de la SNCF aussi, on est dans une véritable bataille d'opinion, une bataille culturelle qu'il faut mener si on veut véritablement arriver à préserver ce qu'on appelle le service public qui sert à l'intérêt général et qui est bien utile à tous. Parce que quand les services publics disparaissent, on le voit dans toutes nos campagnes, ça crée à la fois des difficultés de vie pour des milliers de personnes, et ensuite ça crée aussi du mécontentement, et ça favorise, on l'a trop vu encore à ces dernières élections quand on étudie précisément les cartes, ça, c'est quelque chose qui favorise quand même le vote d'extrême droite par le fait que les gens se sentent abandonnés.
Et puis souvent, un des arguments aussi utilisés par les gouvernements, c'est que la mise en concurrence permettrait une baisse des tarifs et donc une hausse du pouvoir d'achat pour les citoyens et les individus. Et là encore, c'est une idée que vous battez en brèche dans Politis, en prenant par exemple l'exemple de l'électricité.
Oui, on a pu voir, effectivement, l'ouverture à la concurrence dans le téléphone a pu faire baisser les prix. Mais hormis ce secteur-là, dans tous les autres domaines. C'est une augmentation des tarifs, des situations qui sont beaucoup plus compliquées. Et quand on regarde chez nos voisins, qui ont déjà libéralisé et ouvert à la concurrence leur chemin de fer, c'est une augmentation des tarifs partout. On se plaint des tarifs pratiqués par la SNCF parce qu'ils ne sont pas clairs et qu'ils ont adopté un système en vigueur dans l'aviation, sur les lignes par les compagnies aériennes. Il faut se souvenir que le premier logiciel qui différenciait les prix qu'avait récupéré la SNCF, c'était un logiciel qui s'appelait Socrate. C'était un logiciel récupéré auprès de compagnies aériennes pour avoir des tarifs différenciés. Donc on s'en plaint, d'accord, mais quand on regarde dans d'autres pays, les tarifs sont encore plus élevés au kilomètre. Et donc ça c'est un premier point, sans compter aussi que les investissements dans un certain nombre de pays ne se font plus. Et on a vu la situation catastrophe en Grande-Bretagne, qui était un des pays qui avait le plus libéralisé et de manière plus ancienne.
Le rail. Hein.
Désormais, les gens réclament une renationalisation.
Donc l'ouverture, la privatisation et l'ouverture à la concurrence, en tout cas qui peut être questionnée sur son efficacité et ses avantages. Vous pointez du doigt, Michel Sounet, dans votre dossier de Politis cette semaine, finalement l'enjeu qu'il y a autour de la mobilisation actuelle. Parce que ce qui se dessine, c'est un combat assez symbolique qui va décider de la suite du quinquennat et notamment d'une future réforme des retraites.
Oui, nous sommes convaincus, parce que Emmanuel Macron n'avait pas parlé du tout de la SNCF dans son programme. Parce que entre la remise d'un rapport télécommandé à un ancien PDG d'Air France et administrateur d'Areva, de société qu'il a mis en grande difficulté financière, juste après ce rapport, le gouvernement annonce son plan pour la SNCF, décide de passer par ordonnance alors qu'il a une majorité et qu'il pourrait avoir un peu plus de temps, mais qu'il pourrait en discuter à l'Assemblée nationale de manière sérieuse, comme le veulent normalement les institutions. Donc cette volonté de passer en force rapidement, alors que plein d'autres réformes sont engagées en même temps, nous laisse à penser que Emmanuel Macron et son gouvernement veulent briser la résistance possible d'un secteur organisé qui est capable de paralyser en partie le pays quand il se met en grève pour mieux faire passer d'autres réformes, puisqu'on sait très bien que l'année prochaine, ce qui est prévu, c'est une réforme des retraites généralisée qui mettra fin à tous les systèmes de retraite tous les régimes spéciaux pour aller vers un autre système que notre système de solidarité, puisque ça sera un système de retraite par points, un compte notionnel. Or, on aura l'occasion d'y revenir. Non seulement c'est pas la panacée, mais ensuite ça nous fait véritablement changer de modèle social.
Donc ça, c'est l'enjeu plus global hein, autour de ces réformes qui touchent tous les secteurs.
On a le souvenir que des grands réformateurs libéraux qui ont initié le mouvement qu'on voit depuis une trentaine d'années de par le monde, Ronald Reagan et Margaret Thatcher, ont l'un et l'autre pris des mesures radicales et cassé des conflits qui pouvaient avoir une grande résistance. Ronald Reagan en licenciant l'ensemble des contrôleurs aériens qui faisaient grève aux États-Unis, après et ensuite demandé à les réembaucher, mais avec des droits bien différents. Ça, c'est la première chose. C'était faire un exemple avant d'autres réformes. Et Margaret Thatcher, avec son intransigeance face à la grève des mineurs, qui avait une importance économique encore extrêmement importante dans la Grande-Bretagne du début des années 80.
Alors, vous parlez de l'importance économique, justement. Est-ce que la SNCF est un des derniers bastions capables éventuellement de faire plier le gouvernement ?
Ça, c'est quelque chose qu'on verra à l'usage. Est-ce que c'est encore possible? On voit que le gouvernement essaye toutes sortes de stratégies de contournement. Hier, Muriel Pénicaud invitait les salariés à profiter des ordonnances de la loi travail qui autorisent ces salariés à dire à leur patron qu'ils vont faire du télétravail. La SNCF, qui a déjà des filiales qui sont complètement sur des systèmes complètement concurrentiels, et notamment
pour le fret,
le covoiturage, diffuse des publicités, donc dépense beaucoup d'argent. Je rappelle que la SNCF dépense en moyenne par an 200 millions d'euros en communication, publicités diverses, etc. Donc, ils font des publicités pour inciter au covoiturage pour contourner les grèves SNCF et propose d'ailleurs à ceux qui participeraient à ce covoiturage, enfin ceux qui mettraient leur voiture à disposition, des conditions plus avantageuses qu'en temps ordinaire, avec y compris des remises de bons d'essence chez Total. Donc on voit bien que tous les moyens sont bons pour essayer de contourner. On est engagé dans une véritable bataille sociale qui va se jouer aussi beaucoup en termes de communication. Et dans cette bataille, nous prenons parti, nous avons choisi notre camp, effectivement.
Et les syndicats aussi, 7 des 9 syndicats représentatifs des fonctionnaires ont appelé à la grève. Environ 140 manifestations prévues en France. Il y en a une qui démarre à 10h30 à Commerce, à la croisée des trams à Nantes. Pascal Massiot sera sur place et vous pourrez entendre quelques éclats sonores de ces manifestations dans la quotidienne de vendredi vers 18h30. On parlait du poids de la SNCF pour éventuellement faire plier le gouvernement. Un des autres facteurs clés, ce sera l'unité syndicale. Et de ce cas-là, de ce côté-là, ça bouge, Michel Soudet ?
C'est vrai qu'on a vu aussi, on ne l'a pas abordé, que sur le terrain politique, il y a cet appel unitaire de l'ensemble des forces de gauche à la gauche du PS. Mais surtout, c'est... je pense que cette unité syndicale que l'on peut voir à la SNCF avec les 4 premiers syndicats qui sont ensemble dans une intersyndicale ou dans la fonction publique. Dans la fonction publique, cette fois, il y a 7 des 9 principales organisations qui appellent à une journée de grève et de manifestation. Mais les deux autres formations qui manquent, la CFDT et l'UNSA, considèrent que sont un peu du même avis que leurs homologues, sauf que ils estiment que c'est pas tout à fait la date parce que il va y avoir sur le pouvoir d'achat, par exemple, sur la négociation sur les salaires est prévue en juin. Donc ils attendent un peu de voir. Par contre, le 10 octobre, et c'est là que le gouvernement montre quelque part combien il a un gouvernement de combat contre la fonction publique. Le 10 octobre, pour défendre leur pouvoir d'achat, les 9 organisations syndicales étaient ensemble dans la rue. Et il y avait eu des centaines de milliers de manifestants. Or, le 10 octobre, on était quoi ? On était à 5 mois après l'entrée, même pas 5 mois après l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron. Un gouvernement qui réussit en moins de 5 mois à mettre contre lui l'ensemble des syndicats de la fonction publique, il est vraiment très fort, comme dit Bernadette Groison dans l'entretien qu'elle nous a accordé.
On suivra de près et avec vous ce rapport de force qui se noue désormais entre la rue, les fonctionnaires, les manifestants, les syndicats et le gouvernement. Merci Michel Soudet d'être venu à nous parler de votre dossier cette semaine dans l'hebdomadaire Politis, défendre le service public, à retrouver en kiosque.